There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Salut à tous, c'est l'intersaison chez Dunk Hebdo après un podcast dédié à la draft la semaine dernière. La prochaine étape avant la reprise de la saison NBA, c'est la Free Agency. La Free Agency qui débutera officiellement le 2 août, donc demain à l'heure de l'enregistrement, probablement aujourd'hui ou hier à l'heure de la sortie du podcast. Mais donc déjà, les équipes NBA s'activent, des accords sont trouvés. Ce sont des accords, mais aussi différentes rumeurs, des écrans de fumée, des hypes qui font l'actualité du coup en ce moment. Et on va en parler aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans les détails, il a bien mérité un peu de repos à la présentation après son marathon des finales et de la draft. Mais il est toujours d'aplomb pour nous livrer ses analyses. C'est ce cher Ben. Comment ça va, Ben ?
Ça va très bien, oui. Je me suis délesté un petit peu aujourd'hui, mais ça va très bien. On salue le reste de l'équipe Dunk Hebdo. C'est un peu la période des vacances en ce moment chez nous, donc on espère que tout le monde va très bien, puis on espère aussi que les auditeurs vont très très bien.
Tout à fait. De mon côté, ça va très bien aussi, parce que je trahis le secret, je suis en vacances, et ça va toujours mieux quand on est en vacances.
Mais c'est pas le sujet du jour. Je suis le seul de l'équipe qui n'est pas en vacances, je crois. Ouais.
Oui, ce n'est pas encore le sujet du jour. Bon courage à toi, Ben. Le sujet du jour du podcast Dunk Hebdo, c'est donc la Free Agency, et notamment... un certain trade qui concerne une franchise qui joue en pourpre et or. On va pouvoir en parler, mais on en parlera juste après la petite pause. C'est donc l'information qui a fait le plus de bruit le soir de la draft NBA. Oui, les Los Angeles Lakers et les Washington Wizards qui ont ouvert la période des trades donc en NBA à quelques jours de la Free Agency. Et de quelle manière ? Puisque donc Russell Westbrook rejoint LeBron James et Anthony Davis aux Lakers dans un trade qui, donc je le rappelle, permet à Los Angeles de récupérer donc Brody et deux seconds tours de draft 2024-2028 en échange de Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, Montrezl Harrell et le pick 22 qui est devenu ensuite le pick 31 lors de la draft. Et eux ont pris donc la direction de Washington DC et des Wizards. Donc évidemment, c'est un trade qui a tout de suite fait beaucoup réagir les observateurs, les fans, les réseaux sociaux, qui a enflammé notre conversation en WhatsApp aussi chez Dunk Hebdo. Et on est obligé de débuter le podcast du jour par cet échange. Donc Ben, avant de rentrer dans tous les détails, quelle est toi ta première réaction face à ce premier move signé Rob Pelinka cette année ?
Eh bien, tu sais, aux États-Unis, ils ont de nombreux podcasts et il y en a beaucoup où la tradition, c'est avec ce genre de trade de faire un instant reaction. On fait un podcast dans la foulée, 30 minutes, une heure après. Et souvent, je suis heureux qu'on ne fasse pas ça. Parce que parfois, on a envie de le faire, mais là, on est devant un trade où, si jamais on l'avait fait, je pense que notre discours aurait été un petit peu différent de celui qu'on va avoir aujourd'hui. Donc du coup, pour répondre à ta question, ma première impression, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Quand je parle, bien évidemment, je parle des Lakers. Qu'est-ce qu'ils font ? Je pense bien évidemment, comme à tout le monde, au fit qui me paraît extrêmement hasardeux. L'association LeBron James, Russell Westbrook, Anthony Davis, elle me paraît pas claire. Elle me paraît même contre-intuitive, même difficile à imaginer dans une équipe qui joue le titre. Ça, c'est à peine caché. Je me demande aussi comment on fait pour remplir le reste de l'effectif. Parce que du coup, là, on a trois joueurs qui, à eux tout seuls, remplissent pratiquement l'intégralité du salary cap. Ce qui fait que les marges de manœuvre actuelles se limitent à des contrats minimums et la taxpayer mid-level exception. Donc, je me dis, qu'est-ce qui se passe ? Et ensuite, je pense que c'est ce qu'on va faire, je comprends le cheminement des Lakers, de Pelinka et peut-être de LeBron James, parce qu'on a su que les trois s'étaient réunis. Mais globalement, interloqué, ma première réaction.
Oui, c'est ça. Puis c'est à peu près la réaction de tout le monde, tu l'as dit. Si on avait fait une réaction à chaud de manière globale, si j'en crois ce qu'on a pu lire sur les réseaux sociaux, mais aussi là dans notre conversation interne à Dunk Hebdo, et notamment Madiane, qu'on ne va pas citer textuellement, qu'on ne va pas paraphraser. Mais évidemment, on va dire qu'il y avait des réserves par rapport à ce trade. C'est vrai que le premier réflexe, c'est de se dire, bon, qui va shooter dans cette équipe ? avec Westbrook, LeBron et Anthony Davis au centre de tout ça. Donc je propose de commencer par ça, par cette fameuse question du fit avant de venir sur le reste de l'effectif. Alors comme toi, au début, je trouve ça très mauvais. Hein, on va pas se cacher. Et puis en réfléchissant, on essaie de comprendre la logique, parce qu'il y a forcément une logique. Il faut pas non plus se cacher. Les GM en NBA, ils ont une idée derrière la tête. On sait que les Lakers sont une équipe qui vise le titre. Hein. Les Lakers de LeBron et Anthony Davis, ils se sont pas réunis pour faire de la figuration. L'intérêt, c'est d'aller gagner. On sait que de l'autre côté, dans la ligue, ils ont pu voir, notamment avec leur élimination prématurée cette année, les forces en présence de l'autre côté. Et je pense notamment aux Nets. De Kevin Durant, Harden et Kyrie Irving qui ont certes été sortis à une demi-pointure de chaussures, mais qui au complet font très très peur. Et je pense que la première réflexe du côté des Lakers, c'est de se dire, si on veut gagner, il faut qu'on soit plus fort que ces joueurs-là. Et donc, premier réflexe, quel superstar on peut attirer? Il se trouve que Westbrook est relativement disponible, hein, on s'en rend compte. Alors on ne savait pas vraiment, c'est arrivé un peu assez vite. Mais Westbrook est disponible. Ils ont un package avec des joueurs qui ne sont plus forcément en odeur de sainteté. On en avait parlé. Hein. Je pense notamment à Montrezl Harrell et Kyle Kuzma dans ce trade, puisque KCP a quand même un vrai intérêt de par son profil au sein des Lakers. Voilà, ils décident de faire ce mouvement pour récupérer Westbrook. Je ne sais pas. Moi, je pense, comme tu le disais, que le fit, c'est une chose, mais le fit, va falloir le voir au général une fois qu'on aura l'ensemble de l'effectif, quoi, finalement.
C'est un move fait avec une seule idée, c'est la puissance de frappe. C'est un move pour la puissance de frappe. Ça a été sorti par Eric Pincus qui suit les... Je sais pas si j'ai bien...
Il me semble que c'est New York et Nets, enfin, il me semble.
Je sais plus si c'est... Enfin, je sais pas si je l'ai bien prononcé. En tout cas, une chose est sûre, il a sorti l'info comme quoi, du côté des Lakers, on avait trois plans. Le plan A, un peu utopique, soit un Damien Lillard, soit un Bradley Beal, voilà, ça s'est pas fait. On avait le plan B qui était soit Chris Paul, mais Chris Paul a fait de bons playoffs et visiblement, d'après ce qu'on lit, il devrait peut-être prolonger du côté des Suns, Russell Westbrook, ça c'était le plan B. Le plan C était Buddy Hield. Partons du principe, ça a été dit par beaucoup, le fit de Buddy Hield est beaucoup plus intéressant. Sur ça, je suis d'accord. Qu'on parle en puissance de feu, parce que je suis totalement d'accord, tu as parlé des Nets. C'est un move que tu fais avec les Nets dans la tête. On manque pas de respect aux Bucks, hein, mais on l'a vu, ces Nets-là, dans leur forme optimale, sont très, très, très forts. Et je suis pas sûr que contre cette équipe-là, c'est une équipe au fit, taillée, avec des costumes taillés à la perfection, qui, dans l'idée, selon ce que peuvent penser hein, des Pelinka, des LeBron James, qui suffira. C'est-à-dire que demain, si tu alignes une équipe où tu gardes certains des roleplayers, où tu ajoutes un Buddy Hield, je suis pas sûr que sur 100 oppositions contre les Nets, elle en gagne beaucoup. Je pense que, comme tu l'as dit, du côté des Lakers, ce qu'on se dit, c'est... Alors, Russell Westbrook, c'était peut-être la seule superstar avec ce package-là qui était pas incroyable, hein, on va pas se mentir, qu'on pouvait attirer. Et on se dit, si jamais on arrive à retrouver un certain Russell Westbrook, et en termes de puissance de feu, de superstar, c'est peut-être notre meilleur moyen. Alors, est-ce que je trouve qu'il se rapproche des Nets? Personnellement, pas vraiment, parce que je pense qu'il y a 85% de chances que ça échoue, mais je pense qu'ils prennent les 15% de chances. Ils se disent que dans un monde parfait, t'as plus de chances avec Russell Westbrook qui retrouve de sa superbe qu'une équipe au fit avec des Buddy Hield et des shooters auto.
Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi identifier, je pense que les Lakers, pendant cette saison, ont aussi identifié les faiblesses de leur effectif, dans la version LeBron AD et des roleplayers, entre guillemets. Et une des faiblesses qu'on a pointé du doigt tout au long de la saison et qui s'est vue d'autant plus en play-off, c'est toutes les minutes sans LeBron, et c'est le playmaking. Et donc, effectivement, Buddy Hield, c'est un très bon shooter, et ça fit bien en théorie avec un LeBron James. Cela dit, ça ne te règle pas toutes ces minutes sans LeBron James, et aussi tous ces matchs sans LeBron James, parce que c'est aussi tout au long de la saison. Là, on a parlé des play-offs, donc de la puissance de feu nécessaire pour gagner face aux plus grosses équipes de la Ligue. Mais aussi, il faut avoir un bon seeding pour ne pas se retrouver en play-in, par exemple. Et comme tu as Anthony Davis qui rate souvent des matchs, LeBron James qui vieillit, qui a besoin de repos de temps en temps, eh bien, le cas Westbrook, là, il fait sens. Il fait totalement sens parce que c'est un joueur qui a prouvé, alors avec des hauts et des bas, avec les critiques qu'on peut émettre envers Westbrook, mais qui, quand on décide de lui donner un effectif de role-player à talent limité et que c'est lui qui a la charge d'amener cette équipe au bout, de la porter sur ses épaules, eh ben, il le fait, il a emmené les Wizards jusqu'au play-in, Il l'a déjà fait auparavant, évidemment. On se souvient de ses années à OKC, notamment. Donc voilà, à ce moment-là, tout au long de la saison, Westbrook, qui vieillit aussi, mais qui pour l'instant est encore relativement en santé, peut jouer la plupart des matchs. Et c'est pas exclu pour moi, par exemple, que dans la saison, on ait des matchs au repos avec de LeBron et Eddie qui ne sont pas là, ou peut-être que Westbrook et Eddie qui jouent, peut-être que Westbrook et LeBron. Et ça va permettre aussi, au fur et à mesure de la saison, d'avoir cette puissance de feu planchée, on va dire, suffisante pour remporter tous les matchs face aux équipes de bas de tableau, finalement.
Et puis, pour rebondir sur ce que tu as dit, là, ce qui est mis en place par Rob Pelinka, on aurait pu l'anticiper. C'est-à-dire que ça suit un modèle qui met en place depuis l'arrivée de LeBron James. Si on remonte un peu dans le temps, LeBron James arrive, il se passe quoi le même été ? Rajon Rondo signe du côté des Lakers. À l'époque, même questionnement, qu'est-ce que c'est le fit, etc. Ensuite, Rajon Rondo fait son contrat. Il se passe quoi à la dernière intersaison ? Dennis Schroeder arrive via un trade. Même questionnement, le fit, blablabla. Et rebelote. Pour jamais 203, Westbrook arrive. Je ne peux pas croire qu'au bout de trois fois, LeBron James n'ait pas son mot à dire. LeBron James doit signifier à Rob Pelinka qu'il a besoin d'un joueur qui peut le suppléer sur le playmaking et la création. Alors, encore une fois, on va y revenir. C'est loin d'être parfait, Russell Westbrook, en 2021 et en 2022, dans le futur, sur la création. C'est loin d'être parfait. Mais ça fait quand même trois fois qu'on a le même schéma. Donc, LeBron James, forcément, et l'équipe globalement, doit penser cela. Et puis, tu l'as dit, la saison régulière, c'est la deuxième saison de suite. Et il y avait un peu de ça à chaque intersaison qu'on se plaint que les Lakers pensent trop à la saison régulière. Je peux pas me sortir de la tête que, encore une fois, c'est pas un, je vais pas dire jusqu'à un plan, mais ce sont des éléments qui sont mis en place par l'intégralité de la franchise avec le GM et les superstars qui pensent que la saison régulière, c'est très important. Souvenez-vous, LeBron James à Cleveland, qu'est-ce qu'on disait ? Ah, il doit jouer trop en saison régulière, il a trop de responsabilités sur le playmaking. Alors, est-ce que c'est parfait ensuite pour maximiser en playoff ? Non, mais on a trop d'éléments pour croire que c'est juste un move qu'ils ont fait par juste parce qu'ils paniquaient. J'y crois pas. Il y a un plan derrière. Alors après, on peut démonter le plan. On peut démonter le plan, Adrien. On peut penser que le plan est super bancal. Ça, je suis d'accord. Mais ça suit quand même. Ça suit un cheminement, une façon de penser que Pelinka montre depuis qu'il a LeBron James aux Lakers.
Oui, et puis quand tu arrives au bout de cette saison, comme tu le dis, bon, il y a des plans. Souvent, ils sont des plans assez à court terme puisque tu as des contrats courts avec. Bon bah, t'as cité des Rajon Rondo. Il y avait Dwight Howard. Alors Dwight Howard qui est aussi dans des rumeurs peut-être pour revenir, mais c'est une autre histoire. Là actuellement,
c'est en train de faire une équipe de ouf si on était en 2012.
Ah, incroyable. Ah bah Westbrook, LeBron, Anthony Davis. Tu rajoutes les rumeurs Dwight Howard, Carmelo Anthony,
Rudy Gay, tout, DeMar DeRozan, ils sont imprenables en 2012.
En 2012, incroyable. Mais donc pour revenir au sujet, cette année à la fin de saison, il y a plus personne sous contrat pratiquement à Los Angeles. Alors, tu as plusieurs choix. Et j'imagine que de toute façon, là, on voit la finalité, ce trade pour Westbrook. Mais il y a eu plusieurs pistes qui ont été forcément suivies. Alors, on a parlé de Buddy Hield. Je pense aussi que les Lakers ont dû passer un coup de fil pour Kyle Lowry parce que ça semble être le profil peut-être qui répond à toutes les interrogations et à toutes les facettes de ce plan-là. Bon, ça ne s'est pas fait. Il décide d'aller sur Westbrook plutôt que de repartir sur peut-être un peu plus d'argent sur différents jeunes joueurs. Parce qu'on l'a aussi vu cette année, c'est-à-dire qu'on l'a dit pendant l'été, cette année c'est peut-être le moment pour Kyle Kuzma, pour tous ces joueurs-là, de prouver leur valeur, de monter, de passer une étape supplémentaire, de franchir une étape supplémentaire pour justement aider LeBron et Eddie. Ils n'ont pas réussi à le faire. Alors forcément, quand tu fais ça, quand tu décides d'avoir ces seconds couteaux que tu vas essayer de responsabiliser un peu plus, eh ben, tu prends un certain risque. Et je pense que là, ils se disent, bon, alors il y a un risque aussi dans le fait d'amener Westbrook. Tu l'as évoqué, le pourcentage de chances que le plan marche n'est peut-être pas totalement en faveur des Lakers. Mais je pense que tu t'assures un plancher où tu te dis, ce pari-là me semble plus honnête dans le sens où si celui-ci fonctionne, le plafond est très très haut.
Et puis, pour moi, encore une fois, c'est un move qu'ils font. Ils ont les Nets dans la tête. Ils ont seulement les Nets dans la tête. Je veux pas, je touche du bois. Les Nets sont quand même des joueurs, surtout un Kyrie Irving, qui sont pas tout le temps en bonne santé. Tu te dis que si par bonheur pour toi, par malheur pour les Nets, tu te trouves à 3 contre 2, je parle en superstar, ça passe. En fait, L'épouvantail Nets, c'est quand les trois sont là. Alors, attention, hein, quand il y en a deux, ou voire un, quand c'est Kevin Durant, ça fait toujours très peur. Mais l'épouvantail pour cette équipe des Lakers-là, qui en a deux top 10, qui a deux top 10 NBA, c'est quand les trois en face sont là. Ils peuvent se dire que si jamais les trois en face ne sont pas là, nous, avec cette équipe-là, dans sa constitution, on est bon. Mon vrai problème, alors on va peut-être revenir sur les histoires de fit, où oui c'est une catastrophe, mon vrai problème c'est que LeBron James, il nous fait toujours le même coup, quand il s'agit de construire une équipe qui veut gagner le titre, il ne jure que par les joueurs qui ont plus de 32, 33, et ça, ça me saoule un peu, parce que on a vu que tu peux avoir dans tes rotations principales des joueurs d'expérience, c'est même préconisé pour gagner un titre, mais tu as le droit aussi d'avoir des Terrence Mann, d'avoir des Maxi, alors peut-être que Philly joue pas le titre, mais des Claxton, etc. T'as le droit de garder un peu des jeunes joueurs parfois, parce que ça nous ramène du côté des Lakers. Alors vous allez me dire, ils ont Anthony Davis et LeBron James, ils vont pas penser au long terme, mais si tu penses juste 3 secondes au long terme, tu te dis que politique de la terre brûlée, il n'y a plus rien après. Donc ça, ça me saoule aussi. Tu t'évoquais les noms, ils nous ont fait rigoler, mais si tu penses au long terme, tu te dis... Ah, c'est compliqué quand même. Alors certes, c'est pas du tout dans les considérations, mais c'était juste, ça me saoule un peu de toujours retomber dans ce même fonctionnement de construction d'équipe.
Oui. Je comprends tes réserves. Après, voilà, c'est le fonctionnement des équipes de LeBron. C'est, voilà, il est là pour gagner au plus vite et peu importe ce qui se passera après. Et ça a l'air d'être la direction qui a été choisie. Bon, tu as LeBron James, tu suis son schéma. Il y a un autre facteur auquel tu me fais penser, c'est que les équipes de LeBron James, au-delà de cette histoire de shooter, de vétéran, etc., c'est aussi des équipes qui défendent fort habituellement. Et ces équipes à l'énergie, au défi physique. Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu dans ces playoffs. Le défi physique est très compliqué, notamment les champions NBA en titre, les Milwaukee Bucks, ont fait souffrir pas mal d'équipes sur la longueur des séries. Et quant à donc un LeBron vieillissant, à Anthony Davis qui est un peu parfois sur une jambe mal, enfin la dernière image qu'on a de lui c'est relativement triste sur un parquet en tout cas. Voilà, Westbrook ça t'amène ça. Alors c'est pas un grand défenseur sur l'homme, il a plutôt tendance à se jeter sur les interceptions etc. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que tu vas avoir cette énergie du mec qui va prendre le rebond, qui va pousser la balle etc. Et qui emmène les joueurs avec lui. Et souvent les équipes avec Russell Westbrook en option 1, c'est des équipes qui courent, c'est des équipes qui se donnent au moins physiquement. Et je pense que c'est aussi un facteur qui est rentré dans cette décision de se dire la réponse au défi physique est très importante dans l'NBA actuelle. Et comme tu le dis, tu te retrouves souvent avec des joueurs de 32, 33, 34 ans sur le terrain. Des fois, c'est compliqué. Là, tu vois, on évoquait Carmelo Anthony ou Rudy Gay. Bon, pour le défi physique en 2021, 2022, ça va être plus compliqué. Donc, un Russell Westbrook s'inscrit en tout cas dans cette logique, même si voilà, il va falloir attendre d'avoir encore une fois le reste des noms de l'effectif.
On est en symbiose totale, Adrien, j'allais évoquer ça, mais effectivement, c'est vrai que, tu vois, si tu cherches quelques axes chez ces Nets où il faut un peu pilonner le défi physique, ça, en réalité, on l'avait dit depuis la constitution de ce Big Three-là, peut-être leur faiblesse, c'est que si tu joues une équipe qui est physiquement au-dessus, il pourrait leur arriver des bricoles, et c'est intéressant que les Lakers reviennent un petit peu vers cette formule-là, même s'ils y sont jamais... Ils s'en sont jamais vraiment éloignés, hein, parce que Dennis Schroeder, Montrezl Harrell, ça reste dans le même moule. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée de domination physique. Après, pour revenir sur la défense de Russell Westbrook, oui, globalement, historiquement, ça a toujours été un mec qui a parié beaucoup sur la ligne de passe. Là, c'est plus que jamais. Après, à voir, parce que si on parle un peu terrain, ça va être nouveau pour Russell Westbrook. Depuis que KD a quitté OKC, il a toujours été dans des équipes, même du côté de Houston, où il a eu un usage... pas possible, etc. Et moi, je vois un peu ce trade. Alors, ça va te faire mal d'entendre ça, Adrien, mais je vois un peu ce trade comme celui de Melo à OKC. Alors, je compare pas le niveau des joueurs. Je dis juste, c'est un trade qui sous-entend change ton jeu. C'est-à-dire maintenant, tu as été bon dans un espèce, dans une franchise, voilà, tu as été dominant, etc. Là, maintenant, tu vas rejouer le titre, change ton jeu. C'est-à-dire... soit peut-être moins dans un usage pas possible, l'homme orchestre, et fait d'autres choses. L'interrogation actuellement, c'est est-ce que Westbrook peut faire d'autres choses? Est-ce que Westbrook, sans la balle dans les mains, un joueur qui shoot à 30%, à 3 points, un joueur qui, sur ces dernières années, dès qu'il a plus trop le ballon, n'est pas trop intéressé par ce qui se passe en attaque, est-ce que ça peut marcher? Là, j'ai des vraies réserves. Mais je vois vraiment ce trade comme devient un autre joueur, en fait. Transforme-toi. Ouais.
Mais c'est sûrement un des paris de Pelinka, c'est de dire, bon, tu as LeBron James, c'est aussi un des avantages, c'est quand les joueurs rejoignent les équipes de LeBron James, tu acceptes. Parce que tu l'as bien dit, Westbrook, il a toujours été option maximum 2, voire 1 bis. Maximum. Et là, avec LeBron James et Anthony Davis, c'est clair et net. Tu seras 3 ou 1 sur des séquences sur le terrain parce que tu risques d'avoir beaucoup de rotation avec Westbrook et le reste des role-players. Je pense que c'est aussi l'idée. Mais en tout cas, il le sait, lui, quand il signe. Là, tu n'auras pas le choix. Tu ne seras pas l'option 1 bis. C'est sûr et certain. Alors après, j'ai des réserves comme toi. Et les premières réserves qu'on entend souvent sur Westbrook, c'est ces prises de décision. Dans le clutch, c'est difficile de voir une équipe, comme tu l'as dit, donc avec LeBron, Eddy et donc un Westbrook sans ballon. Dans le clutch, ça paraît un peu compliqué à réaliser. Mais après, dans l'absolu, si effectivement il a pris conscience de ça, et je pense que ce sera le cas, et que je pense qu'ils ont eu le temps de discuter, on sait bien que les superstars en NBA parlent beaucoup avec LeBron James, Anthony Davis. Un Westbrook qui se contente d'amener son énergie en troisième option et d'être un finisseur. Parce que aussi, voilà, LeBron James, Anthony Davis, ça reste des joueurs qui savent faire des décalages. Anthony Davis qui peut s'écarter. Tu peux ouvrir la raquette pour des drives de Westbrook qui, justement, on en parlait un petit peu juste avant de prendre l'antenne. Westbrook qui a un peu tendance à se reculer du cercle, à tirer de plus en plus loin. Et ben, c'est peut-être l'année où tu peux te dire, mon gars, retrouve le drive. On va jouer aussi pour toi en tant que finisseur. Et peut-être que ça va aussi t'aider à trouver ta place dans ce rôle-là, quoi.
Effectivement, on en parlait avant d'enregistrer. Il y a une petite stat très intéressante du côté de Basketball Reference qui est la distance moyenne du tir d'un joueur. Et on voit que Westbrook, cette année, il n'a jamais été aussi loin, à l'exception peut-être de sa saison. Ouais, sa saison MVP, il était encore plus loin. Mais autrement, à part ça, il n'a jamais...
Avec une meilleure adresse.
Avec une bien meilleure adresse. C'est un peu une anomalie au niveau de l'adresse. Hein. Sa saison MVP, il est à pratiquement 35% à 3 points. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le cheminement sur ses années post-Durant, l'année où il se rapproche le plus du cercle, c'est du côté de Houston. Et on l'avait dit, il y a eu une période, si on doit retenir peut-être dans une équipe qui a de l'ambition, une période faste pour Russell Westbrook ces dernières années, il y a cette période où James Harden se blesse du côté de Houston. Et où Westbrook prend un peu le jeu à son compte. Ça, c'est peut-être ce qu'il faut retrouver. Et aussi, il faut aussi dire que un mec comme Davis, Westbrook peut être un joueur qui est positif pour les intérieurs comme un Davis. Alors, pas sur le côté spacing, mais sur le côté pick and roll, etc. Donc, je pense qu'il y a des aspects positifs. Après, oui, je suis très, très inquiet vis-à-vis des questions de fin de match, des questions de joueurs sans ballon. Parce que LeBron James aussi, sans ballon, c'est pas non plus oufissime. Ah bah. Question de qui tu mets à côté, parce que visiblement, il y aurait eu un accord tacite pour que Davis passe en 5 et LeBron passe en 4, d'après ce qui flotte dans le microcosme NBA. Les Lakers sont une grosse défense depuis l'arrivée de LeBron. Physiquement, ça va demander beaucoup plus à ces deux-là s'ils décalent d'un poste. Et aussi, ma question, c'est qui sont les deux autres à côté? Parce qu'en plus, tout le monde dit « Ah oui, il faut des 3&D ». Oui, mais ça pousse pas sur les arbres. Tout le monde en veut. et en fait, en trouver avec une enveloppe si limitée, même en étant ces Lakers là avec tout ce pouvoir d'attraction, c'est difficile. On parle par exemple d'un retour peut-être d'un Danny Green. C'est bien, mais tu vois, il faut trouver... Alex Caruso, par exemple, on n'a pas parlé, mais Horton Tucker et Caruso, ils peuvent s'aligner, mais on sait déjà que certaines équipes vont mettre de l'argent sur ces joueurs-là. Et ma question, c'est là, si on veut parler du fit, parce que visiblement, c'est toujours la question qui prime, le fit n'est pas évident, en fait. Enfin, pour moi, c'est inimaginable une équipe où, dans laquelle tu as 4 joueurs qui sont Westbrook, Caruso, Davis, James. C'est pas... Non, ça ne marche pas.
Ouais, non, mais je pense que tu conclus bien cette analyse de ce trade. Finalement, on va pouvoir trancher, entre guillemets, l'avis sur ce mouvement une fois qu'on aura le reste de l'effectif des Lakers devant nous. Parce qu'on peut supputer sur, comme tu disais, sur certaines rumeurs, sur des joueurs qui reviennent, sur des Melo, des Rudy Gay, des DeMar DeRozan, tout ce qu'on veut. Bon, tant que l'effectif n'est pas rempli, tant que ce n'est pas signé, c'est difficile de se projeter. Et puis, c'est un peu, on commencerait un peu à se projeter trop, finalement. On va attendre de tout savoir sur cet effectif des Lakers. Et justement, du coup, ça nous permet, j'ai envie quand même d'avoir ton avis et qu'on en discute de ce trade-là de l'autre point de vue, parce qu'il y a une deuxième équipe quand même dans cette histoire, mine de rien.
C'est vrai.
Il n'y a pas que les Lakers qui récupèrent...
Je t'avoue, quand tu écoutes les émissions sur ce trade, tu as l'impression que les Lakers, ils ont fait un trade avec eux-mêmes. Westbrook, il était, il flottait.
Il était là. on a balancé des joueurs, on a récupéré Westbrook, c'était vachement bien, cette loterie, elle est super bien. Donc, effectivement, il y a les Wizards de l'autre côté de ce trade, donc les Wizards qui sortent donc d'une année avec Russell Westbrook aux côtés de Bradley Beal, une année finalement avec un bilan mitigé, mais plutôt correct.
Vu le début, ouais.
Ouais, plutôt correct. On arrive au play-in. Bon, c'était pas si mal, on va dire. Mais en tout cas, qui décide de tourner cette page Westbrook, pour l'instant, à l'heure où on enregistre, de rester avec Bradley Beal et donc de ramener plus de joueurs. Un jeune joueur, un prometteur avec un profil un peu particulier, Mikal Kuzma. Un KCP, on en parlait, des SPND qui ne poussent pas sur les arbres. En voilà un, sauf qu'il est parti de Los Angeles, KCP. Et puis, tu as un Montrezl Harrell et un pic avec un jeune joueur. Comment tu le vois du côté des Wizards? Qu'est-ce qui transparaît selon toi au niveau de ce trade?
Ce qui transparaît, c'est que je ne comprendrai sans doute jamais Bradley Beal. C'est-à-dire que là, toutes les planètes semblaient alignées pour que, de son côté, il y ait une demande de trade et rien. C'est-à-dire que je pense que... Alors, peut-être que Bradley Beal va demander son trade un jour, mais ça fait plusieurs fois que la fenêtre d'opportunité s'ouvre et Bradley Beal ne s'engouffre pas dedans. Ça me pose question parce que là, je pense qu'en tant que GM des Wizards, tu te dis, bon, le chapitre ou en tout cas la partie Westbrook est terminée, on peut en profiter pour aussi tourner le chapitre Bradley Beal. Non, Bradley Beal reste. Ce que j'en pense, c'est déjà d'un point de vue, alors c'est très bête, mais d'un point de vue comptable, il se débarrasse entre guillemets d'un Westbrook qui aurait pu coûter presque 50 millions l'année prochaine, 47 millions. Donc d'un point de vue salarial, c'est très intéressant, surtout que Bradley Beal y rentre dans son année l'année prochaine en option. Donc voilà, donc ça, il faut garder en prime, c'est-à-dire qu'en gros, si jamais Bradley Beal décide, par exemple, de partir, disons que Bradley Beal décide de partir, d'un point de vue financier, c'est extrêmement sain. Enfin, t'as peut-être du Bertans, etc., mais c'est plutôt sain. Et puis, les contrats qui arrivent du côté des Lakers sont pas fous. Hein. Les Kuzma, etc., c'est pas fou. Ce que j'en pense du côté des Wizards, c'est que ça va être peut-être une année de transition vers quelque chose d'autre, mais... Ma question, c'est, j'ai l'impression que le quelque chose d'autre, il dépend de la décision de Bradley Beal qui n'arrive pas. J'ai l'impression que parfois, en fait, le non-trade de Bradley Beal est presque un problème parce qu'il faut que tu restes un minimum compétitif quand tu as un joueur qui, on le dit, on le met dans notre DH20, voilà, dans le top 20 NBA. Même si bon, il y a des, selon les nuances, selon les préférences de chacun, je te regarde, Adrien, droit dans les yeux, ça peut fluctuer. Donc du côté des Wizards, je pense que c'est une bonne opération parce que franchement, on nous aurait dit que Russell Westbrook était transféré et que tu récupérais des joueurs qui peuvent jouer et être utiles. On n'y aurait pas cru. Après, il y a toujours ce statut de Bradley Beal qui est en suspens.
Ouais, mais finalement, pour moi, tu vois, ce trade, c'est les Wizards qui répondent bien justement à cette question, à cette épée de Damoclès Bradley Beal, en se laissant les options ouvertes. Parce que finalement, en récupérant ces quelques assets, hein, Kuzma, KCP, Montrez ont quand même des valeurs en NBA, tu t'offres la possibilité, si Beal s'en va, alors c'est pas incroyable, mais comme tu dis, tu as de quoi refaire une reconstruction, tu as de la place au niveau salarial, c'est relativement sain, et si Beal reste, tu as peut-être de quoi lui dire, écoute, on commence à faire des moves, on va pas continuer avec cette histoire de Westbrook, on voit bien que c'est pas suffisant, et on va être actif, on va essayer de faire des choses. Donc finalement, sur les deux tableaux, tu es encore présent. Et puis, tu as souligné aussi un point intéressant, qui est ce contrat de Russell Westbrook. Effectivement, si on remonte 2 ans en arrière du côté de Washington, ce contrat-là, il s'appelle John Wall, qu'on considérait comme intradable, on ne peut rien en faire. Et puis finalement, en 2 ans, le contrat de John Wall, il se transforme voilà, en jeune joueur, role-player intéressant en NBA et un pick de draft, alors qu'il a été ensuite échangé. Ils ont récupéré un intérieur. On ne va pas se lancer dans les grandes analyses, on laisse ça à Alan, mais a priori, donc c'est un intérieur assez stretch. Bon, voilà, tu as des jeunes joueurs, tu as des assets, là où tu avais le contrat de John Wall, où tu te paraissais coincé dans une impasse totale au niveau des Wizards.
Globalement, ce que fait le front office des Wizards, alors, c'est pas souligné parce que c'est de l'évacuation et c'est pas de l'acquisition, mais il y avait autoporteur aussi, il faut s'en souvenir, etc. Donc c'était assez compliqué la situation. On remonte 2-3 ans en arrière, ils avaient 3 contrats qui bouchaient absolument tout. Donc ça a plutôt bien évolué. On en parlait avant d'enregistrer. Ça prouve bien que la théorie du contrat intradable, on a vu bouger ces derniers mois. Donc Westbrook, John Wall a bougé la saison dernière, Kemba Walker, Al Horford, Blake Griffin a été gentiment limogé du côté de Détroit.
Enfin, et un certain Chris Paul.
Chris Paul aussi, c'est très juste. Donc cette idée de contrat impossible à toucher, en réalité, ça n'existe pas vraiment. Donc, du côté des Wizards, c'est positif. Après, je les trouve vraiment dans un stand-by. Ils sont en stand-by, genre.
Oui, oui, là, on n'a pas de ligne claire et de projet moyen, court terme.
Pour moi, la ligne claire, c'est Bradley, dis-nous ce que tu fais. En fait.
Écoute, on va attendre un coup de fil de Bradley. Hein.
S'il prolonge, là, tu peux te projeter. Mais là, à l'heure actuelle, je sais pas. Après, attention, hein, on parle d'une équipe qui est au play-in, etc. Ça reste une équipe. C'est une équipe qui a un top 20 NBA, mais qui était dans. On a l'impression qu'il est entre deux projets, en fait.
Ouais. Ouais, c'est ça, entre deux timelines, on va dire. C'est un terme qu'on emploie régulièrement. Donc, une nouvelle fois, bon, ça va être un peu tout au long de ce podcast, forcément, puisqu'on est à la veille de la Free Agency. Voilà, il reste encore des détails à peaufiner pour pouvoir avoir un avis définitif. Mais je pense qu'on a fait le tour pour les Wizards. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Oui, non, il n'y a pas. Hâte de voir c'est quoi leur prochain move. Et ça pourrait être alors, les fameux roster à trade. Eux, ils pourraient commencer à en être un.
Oui, parce qu'il y a des joueurs intéressants dans cet effectif. Mais donc, hormis ce trade, l'autre nom qu'on entend beaucoup, à quelques heures de l'ouverture de la Free Agency, c'est celui d'un certain Ben Simmons.
Benjamin Simmons.
Tout à fait. Le meneur donc, des Sixers qui est cité donc, dans de nombreuses rumeurs, plus ou moins fondées, on va y revenir. De nombreuses rumeurs autour de la Ligue qui dépeignent notamment des Sixers très gourmands hein, au niveau de la contrepartie demandée pour leurs joueurs australiens. Donc, je vous donne un exemple. Les Sixers, tu aurais demandé aux Warriors, Wiseman, Wiggins, les picks 7 et 14 et deux futurs premiers tours de draft. Donc, grosso modo, un package qui est dit des plus grandes superstars de l'histoire de la NBA. Hein, surtout si on se fie aux dernières transactions autour de certaines superstars. Je pense notamment à James Harden. Donc voilà, on sait que Ben Simmons a tout de même une certaine valeur en NBA, hein, s'il faut encore le rappeler, même s'il sort de playoffs compliqués, on va dire, avec les Sixers, sa cote n'est pas forcément au plus haut. Donc Ben, je vais te poser d'entrée la question qui fâche, est-ce que les Sixers veulent vraiment trade leur meneur? Est-ce qu'on ne retrouve pas plutôt un de ces fameux écrans de fumée qui servent aux équipes soit à faire grimper la cote d'un joueur, soit parfois simplement lui signifier l'importance qu'il a à leurs yeux? Comment tu vois, toi, toutes ces rumeurs Ben Simmons?
Si, c'est un peu... C'est de la relation publique qu'ils sont en train de nous faire, les Sixers, à l'heure actuelle. Moi, je trouve ça très intéressant. En gros, on va faire des espèces... On est à cheval entre l'universitaire et le journalistique. On va faire un truc très simple, Adrien. On va se poser trois questions.
Je prends mes notes.
Quelle est l'information? Question numéro 2. Qui publie cette information? Question numéro 3. Qui aurait intérêt à ce que cette information soit publiée? Alors, première chose, quelle est l'information? Alors, on remarque à chaque fois, j'ai noté les trois principales rumeurs qui sont tournées autour d'un Ben Simmons. On a donc celle des discussions avec les Warriors, celle des discussions avec les Cavs et celle des discussions avec les Spurs. Qu'est-ce qu'on remarque à chaque fois? Ça a été dit par Adrian Wojnarowski, il demande beaucoup, mais vraiment beaucoup, à tel point que certaines équipes sont effrayées. On est d'accord, toi comme moi, pour dire que ce qui est demandé est totalement utopique. Enfin, jamais Ben Simmons ne rapportera autant du côté... Ça serait beau, mais on n'y croit pas vraiment. Ok, donc déjà, le premier point, quelle est l'information? Ça sent un petit peu bizarre. Deuxième chose, qui publie l'information? Alors, je renverrai les auditeurs vers un article assez intéressant que j'ai regardé sur les agents NBA qui date d'il y a quelques années, qui disent qu'en gros, eux, et même du côté du microcosme NBA... On va croire une rumeur à 100% comme un fait quand elle est tweetée par Wojnarowski, voire Shams Charania. Ces deux-là n'ont tweeté aucune des rumeurs d'échange, c'est-à-dire de discussion. Qui a publié les rumeurs de discussion? Keith Pompey, qui est un insider, un journaliste local des Sixers. Alors, il n'est pas très aimé dans la fanbase de Philly. C'est un journaliste qui a parfois des news, mais pas des trucs incroyables. Zach Harper, The Athletic, qui est un journaliste national mais qui n'est pas connu pour sortir des informations, des breaking news, comme on dit aux États-Unis, et Kevin O'Connor de The Ringer, qui a la particularité d'être le seul qui n'a pas précisé quel joueur était dans le deal et qui en plus est un journaliste qui va sortir énormément d'informations, mais qui ne sont pas toujours très vraies. Donc là, on a trois journalistes qui nous sortent une information sur des demandes de trade totalement hurluberlues. Et déjà, là, ça sent encore plus mauvais. Troisième question, Adrien, là, je vais te laisser parler. Qui a intérêt à ce que cette information sorte? Je te donne quatre propositions. Le joueur, l'agent, la franchise ou les franchises adverses?
À peu près tout le monde, sauf les franchises adverses.
Est-ce que, tu vois, moi, je trouve l'agent de Ben Simmons. Ben Simmons, il est signé, il a eu son contrat. Il est dans une équipe qui joue peut-être pas le titre exactement, mais qui a des grosses ambitions. La plupart des équipes qu'on a citées là ont moins d'ambitions que les Sixers. On sait qu'il est attaché à Philly. Je ne crois pas en la thèse de l'agent. Je ne crois pas en la thèse d'un Ben Simmons. Pourquoi il irait s'inclure dans des rumeurs de transfert, sachant que trois journalistes différents, ça voudrait dire qu'ils balancent des informations de partout. Dernière chose, qui a intérêt à faire cela? C'est la franchise de Philly. C'est un gigantesque écran de fumée. Ils veulent pas le trader. Ou alors, ils veulent le trader à tel point que ça justifierait son trade au niveau de la fanbase. Ce qui est en train de se passer là, c'est un cas d'école. C'est vraiment un cas d'école.
Oui, non, mais c'est sûr que les principaux bénéficiaires semblent être les Sixers, mais aussi, donc de par ce que tu viens de dire, de excuser si jamais Ben Simmons s'en va, on aura tout fait, effectivement, ça aura pour une énorme valeur, on ne pouvait pas faire autrement qu'accepter ce trade, etc. etc. Après, je pense aussi que dans leur relation interne par rapport à Ben Simmons, ça a de l'intérêt, parce qu'avec sa cote qui baisse, les critiques qu'il y a eu, dire « regarde tout ce qu'on demande pour toi », ça montre à quel point on trouve que tu as une vraie valeur dans notre effectif. Après, c'est vrai que bon, la question revient comme chaque année du côté des Sixers, de ce fameux fit Ben Simmons, Joel Embiid, malgré cette année un effectif qui était plutôt bon sur le papier avec les ajouts de différents shooters, des Seth Curry, des Danny Green qu'on évoquait tout à l'heure. Donc c'est compliqué cette histoire de Ben Simmons parce qu'on voit bien que de partout on a envie de le retrouver, que ce soit des Sixers, mais il y a aussi... Alors, la rumeur qui est sortie du côté de Portland avec CJ McCollum qui a été démenti comme quoi, donc les Sixers ne sont pas intéressés.
Ça, c'est un trade dont on parle depuis 2017, hein, honnêtement.
Voilà, parce qu'il y a d'autres équipes qui ont peut-être aussi intérêt à voir, à dire non, mais ils demandent trop. Parce que c'est aussi ça, si tu montres que, si tu laisses sortir le fait que les Sixers demandent beaucoup trop pour leurs joueurs, c'est aussi pour qu'au fur et à mesure, leur dire, bah, écoutez, non, vous voyez bien qu'il vaut moins votre joueur. Puisque ce qu'on lit partout, c'est pas du tout le niveau. Enfin voilà, les réactions sont le fait qu'ils ne valent pas toutes ces pièces-là. Donc peut-être quelques autres équipes, mais effectivement, de manière globale, ça semble tout venir du côté de Philly. Mais du coup, à quoi bon pour le garder, pour repartir pareil du côté de Philly, qu'est-ce qu'on fait?
Pour montrer qu'en réalité, t'attends quoi? T'attends qu'un énorme poisson se libère. C'est ça le truc. C'est que tu veux pas. Reprenons les packages là dont on a parlé. Philly, c'est une équipe qui a un Joel Embiid, un candidat, un mec pas loin du MVP dans son prime. C'est une équipe qui est dans un quasi all-in. Quel est l'intérêt pour eux d'avoir les choix de draft des Warriors, d'avoir pour eux les jeunes joueurs des Cavs? Ça n'a aucun intérêt pour eux. Ce qui est montré là, c'est juste, en gros, voilà, on va vouloir beaucoup pour Ben Simmons. Par contre, le jour où un joueur de très haut niveau, et on les a cités tout à l'heure, hein, un de ces joueurs-là est disponible, là on parle. Mais je ne crois pas une seconde à la thèse du trade de Ben Simmons contre une flopée de role-players. Ça, j'y crois pas une seconde. Déjà parce que les équipes qui ont une flopée de role-players, elles ont, si on se met à leur place, elles ont d'autres choses à espérer que Ben Simmons. Donc, j'y crois pas en fait. Pour moi, c'est pour Ben Simmons, pour la franchise, pour les fans, etc. Moi, si je suis GM adverse, je me dis juste, ok, ils en veulent énormément. Donc, soit ils attendent un pigeon, soit ils attendent le Messi. Mais c'est tout.
Oui, puisque tu as cité le point, on y revient, c'est cette fameuse timeline. C'est vrai que là, du côté de Philly, tu es dans une fenêtre. Alors, avec ses avantages et ses défauts, mais autour d'Embiid, sur lequel tu es un contender, donc tu as quelques pièces. On retrouve quelques discussions qu'on avait autour des Lakers juste avant. Donc, ces histoires de fit, de comment faire joueur, de quelles pièces tu mets autour de tes joueurs stars pour faire fonctionner, etc., etc. Mais tu es quand même plus dans une timeline de jouer le titre à court, moyen terme plutôt que de tout balancer. C'est vrai que ça n'a aucun sens de balancer Ben Simmons pour un James Wiseman. Enfin.
La rumeur Cavs, c'est celle-ci qu'elle a. La rumeur Warriors, tu peux te dire, en gros, ouais, le package est tellement délirant, tu peux ensuite le refourguer à quelqu'un pour quelque chose. Ça,
admettons.
Non, le package Cavs, il n'a aucun sens. Il n'a aucun sens parce que ce n'est pas des joueurs qui ont une cote folle. Ils sont trop jeunes pour avoir un vrai impact sur une équipe qui vise, je ne sais pas, une finale de conf, disons. Ça n'a aucun sens. Donc moi, j'y crois pas en fait. Pour moi, c'est la même chose. On est en stand-by, on attend de voir ce qui va se passer, si quelqu'un est disponible, et on agit. Là, ils attendent Philly. Mais tu es obligé de montrer qu'en gros, tu essayes, parce que tu dois te dire aussi, Ben Simmons, il sort de sa pire série en carrière, probablement en play-off. Tu es obligé de montrer que tu réagis un peu quand même.
Tout à fait. Bon, si on ne croit pas à ce trade de Ben Simmons, manifestement, en tout cas, à court terme. Après, ça peut évoluer, je ne sais pas, des histoires autour de Lillard, j'en sais rien, même si je ne vois pas trop l'intérêt du côté de Portland. On se retrouve avec cette problématique, que ce soit pour les Sixers, pour les Lakers qu'on a évoqué juste avant et d'autres équipes qu'on va pouvoir en parler, de ces fameux fits, de remplir tes effectifs, de trouver les bons roleplayers, etc. Et donc, toutes ces veilles de free agency, c'est aussi eh bien, la grande période des rumeurs qui nous en disent plus sur les directions que peuvent prendre certaines équipes. Donc, je te propose qu'on parle rapidement alors des trades peut-être plus mineurs qu'on a vu passer parce que ça va être intéressant et qui sont aussi liés à certaines rumeurs. Et je pense notamment au gros poisson actuel, en tout cas qui semble disponible, qui s'appelle Kyle Lowry et qui serait notamment visé du côté des Pelicans. Les Pelicans qui, donc, je le rappelle, ont envoyé à Memphis Eric Bledsoe et Steven Adams et ont récupéré Jonas Valanciunas. Donc, est-ce que Kyle Lowry sera le free agent le plus demandé, Ben ?
Je pense, parce que c'est un peu un modèle, c'est un trou dans pas mal d'équipes. On l'avait dit, il y a un paradoxe incroyable, c'est que le poste de meneur est peut-être le plus riche en NBA, mais quand tu regardes l'élite de l'élite parmi les équipes NBA, c'est des équipes qui n'ont pas les meilleurs meneurs de la ligue. Donc effectivement, ça aurait du sens. Dans beaucoup d'équipes, la piste Pélican, sur un profil comme en gros Kyle Lowry, tu te dis il y a deux voies. Soit il fait un choix un peu plus financier que sportif, où il va peut-être dans une équipe où il y a de moins grandes ambitions, soit il fait un choix plus sportif que financier. Alors attention, j'écarte le délire de dire qu'il va prendre rien du tout, non. Mais et il part peut-être dans une équipe, on peut penser à une équipe type Miami, où on peut penser, moi j'aime bien la piste Dallas. Dallas, les moves qui sont faits actuellement, on en parlera peut-être rapidement de Josh Richardson. Alors, il y a la question Tim Hardaway, qu'est-ce qu'on va faire avec Tim Hardaway ? Mais clairement, ils ont une volonté d'apporter une plus-value pour permettre peut-être à Luka Doncic, l'idéal, ça serait de lui retirer peut-être un peu de playmaking, mais aussi de lui ajouter d'autres joueurs de haut niveau à côté de lui. Donc pour moi, Lowry fait du sens pour beaucoup de monde, pour les Pélicans aussi, parce que les Pélicans, on va en parler, mais ils peuvent perdre Lonzo Ball. Il fait de sens pour beaucoup d'équipes, mais je pense qu'on le retrouvera quand même dans une franchise avec des ambitions.
C'est assez intéressant ce que tu pointes sur cette histoire de meneur, parce qu'il y a aussi pendant longtemps, on en a aussi beaucoup parlé dans le podcast, en NBA, l'important c'était d'avoir ton aile très chargée, parce que la concurrence était très forte, la différence de niveau entre l'élite et le joueur moyen était telle qu'il te fallait être chargé à l'aile. Et là, on commence à passer à un stade où bon, les ailes sont relativement remplies aussi parce qu'avec les différentes drafts, on a vu arriver pas mal de joueurs de ce profil-là assez grand. Et puis, on commence à se dire, bah tiens, mais le problème, c'est que des ailiers, c'est bien, mais il nous manque un peu de playmaking. Donc, effectivement, il y a ce cas Lowry. Donc, Lowry au Pelicans qui serait lié aussi au cas Lonzo Ball. Lonzo Ball qui serait sur le départ sur quelques équipes, dont notamment les Chicago Bulls. Voilà, je le place ici. Il y a Spencer Dinwiddie aussi qu'on voit apparaître un peu partout. Et puis après, on a d'autres types de joueurs, mais effectivement, bon, la main et le cas Lowry peut être la première pièce de domino pour toute la suite, parce que tu as évoqué effectivement donc Dallas. Donc tu l'as dit, qui a envoyé Josh Richardson aux Celtics contre Moses Brown, et c'était une trade exception du côté des Celtics. Donc en gros, il y a un peu plus de place à Dallas pour signer un éventuel nouveau joueur. Donc il y a ces meneurs-là, et puis il y a les cas qu'on a évoqués, des un peu plus vétérans. Alors Lowry l'est aussi d'une certaine façon, mais dans le profil meneur, là je vais parler des autres, des vétérans alors qu'on appelle vulgairement ring chaser, mais qui pourraient prendre des contrats un peu plus faibles pour aller dans des équipes, bon bah tu l'as évoqué, des contenders. Il y a les Rudy Gay Carmelo qu'on a cité, il y a DeMar DeRozan aussi qu'on a cité, il y a tout un tas de pistes. Bon, pour l'instant c'est difficile d'y voir clair, on va pas pouvoir je sais pas si t'as un nom qui te fait envie comme ça dans une équipe, une association qui te paraît extraordinaire.
Mais, mais en tout cas, non, moi, ce qui me fait toujours marrer avec DeMar DeRozan, le traitement médiatique actuel, c'est tellement paradoxal parce qu'on passe un an à nous expliquer qu'il est plus bon, qu'il fait rien. C'est un joueur qui apporte aucun spacing, qui est complètement carbonisé. Mais par contre, à la seconde où on nous dit qu'il va peut-être éventuellement signer aux Lakers avec une mid-level exception, ah là là, les gros marchés, c'est insupportable, blablabla.
Ça rappelle le cas des joueurs cut et signés à la fin, justement,
tous les
de la
six
trade
mois.
Deadline, les fameux Drummond, Griffin, l'année dernière,
énorme
la Marcus.
Impact, hein, des Drummond en playoff. Non, c'est insupportable, tous les six mois. Ce que je pense, c'est que visiblement, d'après les rumeurs, beaucoup pourraient se diriger du côté des Lakers. Et c'est là où j'apporte un petit bémol. C'est une construction d'équipe, on l'a dit, de LeBron James, qui a marché surtout quand LeBron James était soit numéro 1, soit numéro 2. C'est-à-dire qu'en gros, son équipe se dégageait largement du reste, où tu étais dans une espèce de guerre froide avec les Warriors. Là, je mets les Nets devant. faut pas oublier les Clippers, les Bucks sont champions en titre. Je sais pas si, alors peut-être parce qu'il y aura des opportunités en termes de minutes d'exposition, etc. Mais je sais pas si le choix Lakers sera si évident qu'on le dit pour beaucoup de ces joueurs-là.
Ah, il y a toujours le prestige. On revient à cette histoire. Là, on revient à cette histoire de gros marché. Mais c'est vrai que bon, tu vas gagner aux Lakers. Déjà, tu mets ce maillot. Jouer aux Lakers, il y a l'héritage Kobe en plus qui est dans la tête de pas mal de joueurs en ce moment.
Surtout que là, on parle de joueurs d'une génération plus ancienne, donc certains ont joué face à Kobe, ouais.
Oui, tout à fait. Et puis on l'a vu, là, même après le titre de Giannis, les gens ont ressorti les tweets de Kobe autour de la Mamba Mentality. Il y a quand même ce mythe Lakers. Et puis après, il faut voir si ce que les autres équipes que tu as citées recherchent. Parce que est-ce que du côté des Bucks, on a beaucoup envie de bouger, d'aller signer, de prendre des risques, entre guillemets, parce qu'aussi ces vétérans-là, bon. Ça peut marcher comme ça peut... Alors, j'aime beaucoup Carmelo Anthony, mais je ne pense pas que dans tous les contextes, il soit positif en 2021-2022. C'est la même chose pour DeMar DeRozan. Tu l'as dit, c'est un profil qui est quand même très particulier, peut-être un peu anachronique. C'est peut-être un peu dur de le dire comme ça, mais en tout cas, en 2021-2022, ce n'est pas le profil que tu recherches en 1. Peut-être que finalement, c'est l'histoire de Buddy Hill qui n'a toujours pas bougé, hein, quand même, il faut le dire, qui sera peut-être celui qui sera le plus demandé dans toute cette histoire.
Vis-à-vis des free agents du côté des vétérans, c'est vrai que je ne sais pas si certaines des équipes que j'ai citées sont prêtes à prendre ce genre de risque. Je pense juste que là, la hiérarchie, les Nets sont premiers. Derrière, on peut défendre le fait que oui, les Lakers sont deux, mais c'est pas assez clair pour que tous ces vétérans-là se pressent vers une ou deux, voire trois destinations, en fait. C'est trop diffus. C'est beaucoup trop diffus. Et c'est vrai que l'argument du prestige et de l'effectif un peu court des Lakers va en faveur des Lakers. C'est une évidence. Mais c'est pas si évident que ça, en fait. Demain, tu vois, c'est intéressant. Tu les as introduits en disant ring chaser. C'est comme ça souvent qu'on parle d'eux. Moi, si je suis un ring chaser bête et méchant, je vais aux Nets. Hein. Je vais pas aux Lakers. Donc,
en termes de risque, c'est peut-être, il est peut-être de moins. Et puis, il y a une autre équipe qu'on n'a pas citée. Qui est alors contender, c'est peut-être un peu fort, puisque bon, malheureusement, une nouvelle fois, ils sont sortis assez prématurément par rapport à ce qu'on pouvait attendre. C'est le Utah Jazz, le Jazz qu'on voit apparaître dans certaines rumeurs qui voudraient se débarrasser, échanger Bogdanovic, peut-être des Joe Ingles. On a vu un premier trade qui a envoyé
Derek Favors.
Derek Favors, merci, du côté d'OKC. Tu signeras au Jazz?
Alors, le Jazz, déjà, Mike Conley, ça semble être en bonne voie, d'après ce qu'on peut lire. C'est plutôt solide. Le Jazz, c'est une équipe qui va miser sur la symbiose et la constance. Et je ne les vois pas faire un trade. Et surtout, parmi les trades proposés, il y a eu un trade. Alors là, c'est vraiment une saison où il faut se méfier et faire confiance qu'à certains insiders bien informés. C'était un Kuzma Ingles ou un truc comme ça qui n'avait strictement aucun sens, qui était totalement lunaire. Donc je pense que le Jazz va pas vraiment bouger et va parier sur sa constance. On y reviendra, mais le Jazz, suivez mon regard, fait partie de ce genre d'équipe qui donne de la valeur à être bon, être en playoff et qui va pas jeter tout à la mer pour espérer peut-être éventuellement gagner un titre.
Bon, et avant de conclure, il y a un dernier nom que j'aimerais évoquer parce que je le vois arriver aussi dans les rumeurs en ce moment, qui a pas sa cote au plus haut, mais dont on a parlé avec pas mal d'éloges ces dernières saisons. Il joue à Toronto, il s'appelle Pascal Siakam. Pascal Siakam qui a quand même un profil intéressant. Alors là, on n'est pas sur les 3&D, etc., mais qui pourrait intéresser alors des contenders, je ne sais pas, mais en tout cas des équipes qui voudraient un peu élever leur plancher, parce qu'un Pascal Siakam, on a vu qu'en option 1, peut-être, du côté Toronto, juste, on semble se dire... C'est trop juste, et du coup on a les Raptors qui se retrouvent dans pas mal de rumeurs, qui enverraient toutes leurs pièces un peu partout, plus sur une direction de reconstruction que d'amélioration à court terme de l'effectif.
Je comprends pas trop, parce qu'ils ont que des mecs qui sont entre 24 et 27, je comprends pas, mais je te laisse continuer.
Oui, non, mais je pense que t'es dans ce moment-là où t'as ces jeunes joueurs-là, dans leur deuxième contrat, tu les avais dans ton équipe championne, parce qu'on se rappelle que les Raptors sont des champions récents en NBA. Tu as perdu tes joueurs majeurs. Tu t'es dit, bon, bah, je vais donner la chance à ces jeunes joueurs de devenir les pièces angulaires de notre effectif. Et je pense que du côté des Raptors, et je pense également que c'est lucide, on estime que ces joueurs-là ne te permettent pas en tant qu'option 1-2, on pense à Van Vliet aussi, évidemment, d'être vraiment compétitif. Donc, tant qu'à faire, on pourrait, parce que je pense pas qu'ils aient la volonté absolue de balancer Pascal Siakam, mais en tout cas, on pourrait voir ce qu'on peut faire pour retrouver un talent plus grand sur lequel construire à plus moyen long terme là qu'à court terme cette fois-ci.
Je pense que Siakam, dans un futur pas proche, éloigné, pourra être échangé. C'est trop tôt dans le contrat. Il a signé une extension 4 ans 136. Je parle en millions, hein, bien sûr. 4 ans 136. Il entame seulement la deuxième année. C'est-à-dire que si tu trades pour un Pascal Siakam, t'as encore 3 ans de contrat. T'es à 33, 35 et ensuite 37. C'est beaucoup pour Pascal Siakam, qui a prouvé qu'il pouvait être un option 2-3, qui a montré des choses avec les Raptors, faut rien lui enlever, hein. Mais je trouve que c'est trop tôt pour le faire. Je vois pas des équipes attirées par ça, là où pour d'autres joueurs de cet effectif, comme OG Anunoby, qui lui, on peut totalement intégrer dans une équipe et un effectif avec des ambitions, ça a peut-être plus de sens. Mais Siakam, je pense que c'est trop tôt, Siakam. Peut-être on en reparle dans un an et demi, mais là, je pense que c'est trop tôt.
Après, peut-être des équipes, alors je suis peut-être biaisé par justement mon côté fan des Bulls, mais peut-être des équipes plus dans cette timeline que celle des Bulls, qui ont décidé de regagner un peu sans être contender et qui pourraient balancer de 3 à 7, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait de quoi contenter les Raptors, en tout cas chez nous, mais en tout cas dans cette idée-là d'avoir un mec que tu peux payer pour être ta troisième option, et on a vu, comme tu l'as dit, que Siakam pourrait avoir de la valeur, mais effectivement, à court terme, ça semble, en tout cas dans l'absolu, maintenant, ça semble compliqué, mais on n'est pas à l'abri de surprise, puisque bon, déjà, qui avait vu Westbrook aux Lakers ?
Personne.
Et puis, j'ai failli les oublier, mais on va en parler, parce que je sais que tu souhaites en parler, une certaine équipe chère à notre Alan Guillou national, les Celtics, qui ont donc décidé de récupérer George Richardson, en envoyant donc Moses Brown et une trade exception qui a été utilisée, donc finalement, pas grand-chose. Quelle est la direction ? Qu'est-ce qu'on essaye de faire du côté des Celtics, Ben ?
Bah, c'est bien ça mon problème, Adrien. C'est pour ça que je t'ai plus ou moins dit « Hey, il faut qu'on parle des Celtics. » Et avant, « Hey, il faut vraiment qu'on parle des Celtics, en fait. » Les Celtics, j'ai l'impression, et là, je me protège déjà parce que je vais recevoir les caillasses de la fanbase des... J'ai l'impression que les Celtics, ils ont... Alors, c'est un cheminement long, hein. C'est du moyen terme, mais ils ont abandonné l'idée d'être un poids lourd à l'Est, ou en tout cas même un poids lourd de la NBA. En fait, j'ai l'impression qu'on entérine ça cette année. Alors, pourquoi je le dis ? Alors, d'abord, les trades qui ont été faits. Alors, le Kemba Walker pour Al Horford, je peux comprendre, Kemba, c'était compliqué, Al Horford a fait un bon passage du côté des Celtics, bon, il a pas le même âge, mais je peux comprendre. Josh Richardson, ça coûte peu, on a bien compris, du côté des Mavs, on cherchait à créer du cap space. J'ai un vrai problème, c'est que on en parlait souvent il y a quelques années. Brad Stevens, il avait fait une interview assez intéressante, c'était en 2017, où il expliquait que selon lui, il y avait 3 postes au basket maintenant dans le basket moderne. Porteur de balle, ailier, il dit big, donc bon, on va dire intérieur pour traduire. Quand je regarde les ailiers du côté des Celtics, j'ai pas vraiment de soucis. Bon, Jason Tatum, Brown, c'est bien. Ensuite, bon, il y a le pari, Jabari Parker, il y a des jeunes joueurs, ça va. Du côté des grands, Al Horford, Robert Williams fait quelque chose, moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. Je trouve ça plutôt solide. Mais alors, les porteurs de balles, faut qu'on se pose 2 minutes. J'ai un énorme souci au niveau des porteurs de balles. Chris Dunn, qui sort d'une saison quasiment blanche, qui, je t'ai donné la stat depuis la saison 2018-2019, a raté 50% des matchs dans les, auxquels, 50% des matchs qu'il aurait pu disputer, pardon. Ça, tout, tu te dis, oui, ah oui, mais il a fait une saison blanche. Oui, mais en fait, il rate 25 matchs par an, pratiquement. Josh Richardson, on l'a vu. Alors certes, il y a ce souvenir du hit, mais globalement, Josh Richardson, c'est plutôt un joueur qui est un deuxième porteur de balle. Ensuite, on a des jeunes joueurs. On a Pritchard, Kyson Edwards, et puis Marcus Smart.
Marcus.
Alors, c'est bien côté défensif, mais offensivement, cette équipe-là, moi, je suis extrêmement inquiet pour sa production. Ça va marquer des points avec Tatum Brand, mais en dehors de cela, je l'ai dit, j'ai l'impression qu'il parie un peu sur le modèle. On en avait parlé pendant les finales, les deux modèles types pour créer de l'attaque. Il parie beaucoup sur le modèle création collective. Tout le monde va avoir un petit peu va apporter sa pierre à l'édifice, mais je vois pas assez de bons passeurs pour que ça passe, ça. Leurs meilleurs passeurs, c'est presque leurs intérieurs. C'est-à-dire que Al Horford et Robert Williams peuvent apporter des choses. Je suis extrêmement pessimiste et j'ai l'impression que cette équipe-là, elle est dans un moment où elle est contente d'avoir l'avantage du terrain et peut-être passer un tour en play-off.
Oui, même si on rajoute Evan Fournier, que tu n'as pas cité, qui n'est pas forcément de retour à 100%, mais qui pourrait être là, ça ne règle pas, ça ne change
et
pas
en plus,
sa, sa problématique.
Fournier, on peut le dire, les rumeurs nous laissent sous-entendre qu'il pourrait peut-être pas revenir.
Oui, tout à fait. Et puis, ça réglerait pas de toute façon les problématiques que tu viens de soulever. Mais après, moi, je suis d'accord avec toi. Et puis, c'est une analyse qu'avait faite Alan avec nous. Alors, je sais pas s'il l'a fait en podcast, mais en tout cas, on en a discuté entre nous après la bulle où les Celtics ont fait un joli run en playoff. Et effectivement, ça ressemblait à une fenêtre très courte qu'il fallait saisir puisque à court terme, et on s'y retrouve là maintenant, on voit pas un effectif. On a cité des équipes là juste avant et des effectifs. Même à l'Est, qui ont une puissance de feu bien plus élevée que ce que les Celtics peuvent proposer avec cet effectif-là. Donc effectivement, moi aussi, je suis un peu dubitatif. On peut espérer encore une étincelle supplémentaire, mais ça va commencer à être compliqué de demander à Tatum et à Brown d'encore passer un cap et de devenir vraiment des super superstars. Comme tu l'as dit, Tatum qui est dans notre DH20, mais pour aller gratter le top 10, il va falloir se lever tôt, hein, même avec tout le talent qu'il a. Donc effectivement, c'est assez curieux. On va quand même laisser le bénéfice du doute, en tout cas de mon côté, à Brad Stevens qui vient d'arriver. Donc premier move, récupérer Josh Richardson, pas convaincu non plus. Après, dans l'optique où Evan Fournier ne revient pas, bon, il est dans ce profil-là, dans ce rôle-là. C'est pas totalement illogique pour pas perdre ton équipe dans une intersaison qui est assez compliquée parce que t'as perdu ton GM, ton coach est passé GM, t'as un nouveau coach. Bon, peut-être que c'est pas le moment non plus de faire des mouvements de panique. Comme on peut en voir de temps en temps.
Mais moi, je me demande vraiment, alors là, c'est une intuition, hein. Brad Stevens a fait que quelques mouvements. J'ai l'impression qu'on se dirige vers une gestion, pas de bon père de famille, mais pratiquement, en fait, du côté des Celtics, où il y aura... Alain en a déjà parlé un peu, on en a un peu tous parlé. Le truc de se dire, c'est bien d'être une équipe solide et souvent en play-off. C'est bien, et cette espèce d'anomalie où, alors que tu avais des choix de draft très haut, du cap space et des jeunes joueurs, tu as réussi à faire des choses incroyables. Peut-être que c'était une magnifique illusion et qu'en réalité, cette équipe-là, elle a ce statut-là d'une équipe qui a peut-être l'avantage du terrain, mais pas plus. Parce que quand tu te projettes à moyen terme, Adrien, c'est quoi la solution? Les assets, c'est terminé. Les jeunes joueurs, il y a un phénomène classique, c'est-à-dire qu'il y a un écart monstre entre le deuxième et le troisième meilleur joueur. C'est-à-dire que si tu veux trader pour un joueur de haut calibre, ils vont tout le temps de bonnet Jalen Brown, c'est une certitude. Et au niveau de la free agency, les salaires de Tatum et de Brown font que tu as peu de marge. Donc, quand je regarde les opportunités d'amélioration concrètes, à moyen et long terme, elles sont très faibles. Donc ouais, j'ai l'impression qu'on est content. Je te redonne la parole, mais tu vois, souvent on fait ces tiers, ces groupes de niveau. Ces dernières années, souvent les Celtics, ils étaient peut-être pas dans le plus haut, mais ils étaient dans ce groupe de poursuivants. Là, ils sont en chasse-patate. Là, ils sont troisième maintenant.
J'adore l'analogie. L'analogie vélo me plaît beaucoup. Mais pour revenir sur ce côté papa de Brad Stevens, que de père de famille, comme tu disais, c'est aussi une des réserves qu'on avait dès l'annonce de ce changement. Et je pense que ça, c'est un risque de sa gestion, de son début de gestion, c'est que tous les joueurs de cet effectif, c'était des joueurs qu'il avait quand il était coach. Et je pense que pour lui, à surveiller, hein, bien sûr, mais c'est compliqué de se séparer de ces joueurs-là. Peut-être qu'il les estime un peu trop. Peut-être aussi qu'il a peur de la confrontation, enfin de la discussion où tu lui dis écoute, je t'ai balargué pour aller récupérer des picks de draft. Le statut de Brad Stevens, c'est compliqué aux Celtics. Donc, effectivement, année 1, je pense que, comme tu l'as dit, du côté des Celtics, là, on n'est plus dans l'optique d'aller gagner demain, dans les 2-3 prochaines années. Va falloir laisser un petit peu de temps pour retrouver une vraie direction. Peut-être qu'il va falloir attendre que Brad Stevens puisse couper le cordon, entre guillemets.
Après, tu vois, je n'irais pas jusqu'à dire qu'ils n'ont pas de direction. Je dirais que le temps des ambitions folles est terminé. C'est-à-dire que maintenant, on est une équipe solide. Et là, tu as une équipe solide. Hein. Le truc, c'est que le problème de playmaking et de scoring, tu ramènes Chris Dunn, tu ramènes Josh Richardson. C'est une équipe qui se construit sur celle de son coach, en fait. Sur les idées de son coach, Udoka, on met de la défense, on met des vétérans. C'est ça, en fait, qu'ils sont en train de faire. Ils mettent des vétérans et de la défense. C'est pas le cocktail qui a montré les meilleurs résultats sur des campagnes de playoffs. Donc,
c'est juste. Sauf si t'as LeBron James, mais comme on le dit souvent, Comme la règle, c'est LeBron James, c'est compliqué.
C'est un problème. Donc, je voulais juste en parler un peu parce que pour moi, c'est pas une page qui se tourne parce que on commençait à la tourner, mais là, c'est acté en fait. C'est acté totalement.
Ouais, bon, pour le moment, on va essayer de faire confiance à Jason Tatum du côté des Celtics, a priori. Mais à surveiller une nouvelle fois, je pense que c'est de toute façon, c'est un peu le bilan de ce podcast. Bon, on a quand même pu dire des choses, notamment sur Russell Westbrook aux Lakers, on y a passé une bonne vingtaine de minutes. Mais finalement, il va falloir attendre cette ouverture de Free Agency, les trades qui vont arriver, un peu s'écarter des rumeurs, avoir enfin des arrangements signés pour pouvoir réagir. On va pouvoir en parler. Mais avant de refermer ce podcast, je voudrais aussi qu'on souhaite la bienvenue à deux personnes, à Antoine et à Gabin dans l'équipe de Kebdo. Vous allez pouvoir les retrouver sur les réseaux sociaux puisque ce sont donc nos nouveaux community managers qui ont déjà commencé à échanger un peu avec vous sur Twitter. Donc encore plus que d'habitude, n'hésitez pas à aller à nous suivre, à venir échanger.
Maintenant, on va être actifs.
Exactement. À souhaiter donc la bienvenue à nos community managers. On est bien sûr aussi toujours disponible sur vos plateformes de podcast favorites. Également, il est bien possible qu'on prenne quelques vacances chez Dunkebdo, c'est pas sûr, mais il pourrait y avoir quelques semaines sans podcast. On vous tiendra bien sûr au courant, mais on sera d'attaque.
Je suis extrêmement fatigué.
C'est compréhensible. Après, on a enchaîné hein, quand même cette saison de bulle. Nous aussi, pas que les joueurs NBA.
Franchement, on va passer le cap fatidique de l'heure. Je m'excuse, Adrien.
Oh ben non, t'inquiète.
Franchement, c'est un long tunnel. Et le truc, c'est que nous, on se dit toujours, pour vous faire un peu entrer dans les coulisses, on se dit toujours, à l'intersaison, il faudra trop qu'on fasse ce sujet-là. Genre, moi, je veux tellement faire un sujet Celtics, process, voilà, les reconstructions, blablabla. Et là, tu te dis, la saison, elle reprend mi-octobre, on est début août, on doit faire des previews, on doit faire le DH20, qu'est-ce qu'on fait ? Voilà.
Et puis, tout le monde a envie de prendre un peu de repos, on n'est pas forcément chez nous pour avoir un bon son, etc. Nos fameux micros, c'est pas toujours évident. Mais voilà, donc c'est possible, on vous tiendra bien sûr au courant sur les réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à nous suivre. On sera d'attaque pour la saison NBA 2021-2022, du coup, qui se prépare, ne vous inquiétez pas. Le DH20 sera fait, les previews bien sûr. D'ici là, on va vous souhaiter quand même un bel été, malgré le temps mitigé pour le moment. De bonnes vacances à ceux qui ont la chance d'en avoir, hein, du coup, Ben.
De bons JO aux autres.
Exactement, de bons JO à tout le monde.
Oui.
Et puis, on espère que la France ira le plus loin possible, elle ira arracher une médaille. Et puis, on se retrouvera très très vite pour un nouveau podcast Dunkebdo. Salut.
Salut Adrien.